RCF.
Toute cette semaine, on s'intéresse à la spiritualité, à l'intériorité de l'homme et notamment à son évolution, parce qu'il y a eu la place de l'âme à évoluer tout au long des siècles. On arrive au XVIIe siècle. Avec vous, Père Jean-Baptiste Masson, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes prêtre du diocèse de Lille, vous êtes curé à Villeneuve-d'Ascq. La question de l'âme humaine, elle vous intéresse. Et notamment, comment est-ce qu'on rencontre Dieu? En fait, au fond, c'est toujours cette question qui va traverser les siècles. Alors, comment est-ce qu'on rencontre Dieu dans ce XVIIe siècle, où l'intériorité va connaître quasiment une apogée, mais où, paradoxalement, c'est aussi le moment où on se dit qu'on pourrait peut-être vivre sans Dieu?
Exactement, donc on est au siècle de François de Sales et puis de Descartes et on voit conjointement s'élaborer une synthèse de la tradition chrétienne sur l'âme avec une véritable cartographie de l'âme ou d'anatomie de l'âme. On est à l'époque aussi des dissections sur les cadavres où on cherche le fonctionnement du corps humain, mais dans l'intériorité, il y a cet aboutissement en quelque sorte où plusieurs auteurs spirituels font des descriptions très précises de tout le fonctionnement de la vie intérieure humaine. Donc il y a une richesse de la tradition chrétienne qui est stupéfiante, en fait. C'est très, très beau quand on voit les textes de Louis de Blois ou de François de Sales. Eh bien, on voit cette description minutieuse et très subtile et très, très fine du fonctionnement de l'intériorité humaine et de la façon dont ça va jouer dans la vie spirituelle. Donc, François de Sales fait un traité de l'amour de Dieu, donc comment on peut aimer Dieu à partir de toutes nos facultés humaines. Louis de Blois, lui, c'est plus un religieux, c'est un abbé de monastère. Alors, on a cette synthèse de la compréhension chrétienne de l'âme. Et puis, en même temps, il y a Descartes, alors qui, lui, est aussi profondément chrétien, mais il va développer l'idée de la vie intérieure et des phénomènes de la pensée à partir du physique. Donc, par exemple, il y a cette image, cette idée du nerf optique qui permet de voir la lumière, qui est excitée par la lumière. Alors c'est la compréhension de phénomènes physiques auxquels on avait peu accès jusqu'à présent, où on finit par se dire, bien, en fait, la pensée de l'homme, même sa vie intérieure, peut s'expliquer totalement physiquement sans avoir besoin de Dieu. Et du coup, on va quelque part extérioriser, on avait parlé de la présence de Dieu en l'âme, on va extérioriser Dieu de l'être humain et en posant l'âme comme un espèce d'objet dogmatique. Alors c'est ce que fait Descartes parce qu'il est effrayé par les conséquences de sa pensée. Alors il va dire l'âme humaine, elle se localise dans la glande pinéale. Eh bien, c'est le lieu de connexion du cerveau avec l'âme humaine.
Alors ça, vous dites, ouais, il est effrayé Descartes parce que il se rend compte que ce qu'on a cru jusqu'à présent, c'est-à-dire cette attirance vers Dieu, cette idée que nous avons une âme qui est de l'ordre du divin, d'un seul coup, on mesure que finalement ça pourrait très bien être simplement un effet physique de notre corps qui crée une imagination qui est celui de pur événement chimique physique, en quelque sorte.
C'est-à-dire qu'on essaye on est fasciné par ces fonctionnements physiques. Il y a Hobbes qui dit, par exemple, que l'être humain pourrait s'expliquer comme une horloge plus sophistiquée. Et donc, c'est ce que disent jusqu'à aujourd'hui les neurosciences, par exemple, en disant « du coup, Dieu n'existe pas ». Dans cette veine de pensée, le problème, c'est qu'on met sur le même plan ce qui est de l'ordre spirituel, la distinction qu'a toujours fait la tradition chrétienne, en disant l'âme, c'est cet intermédiaire entre le spirituel, le divin, et le terrestre, le corporel. Mais il n'y a pas de confusion entre les deux registres. Or, donc, ce qu'a dénoncé un auteur du XXe siècle, Hayek, qui disait, c'est comme si vous disiez, il est arrivé à la maison en pleurs et en chaise à porteurs. C'est-à-dire qu'il est arrivé à la maison donc dans un état psychologique, en pleurant, et puis en chaise à porteurs, là, c'est un état physique. Alors, ça fait rire comme phrase, mais c'est parce que vous mettez sur le même plan des choses qui sont d'un registre différent. Et c'est le problème avec Descartes, c'est que du coup, on va se mettre à chercher l'âme sur le plan de la façon dont ça se situe dans le corporel, la manière dont on va localiser l'âme dans le cerveau, et ça marche pas. Parce que la question de l'âme, c'est la question de la relation de l'être humain tout entier dans son corps, dans ses facultés intellectuelles, dans sa capacité à Dieu, avec Dieu, donc entre le terrestre et le divin. Donc on est dans deux ordres de pensée qui se comprennent plus. Alors dans la pensée qui suit la philosophie française et cartésienne, ça va être jugé comme un discrédit. On va complètement oublier la question de l'âme et sa représentation telle qu'on l'a vécue dans la tradition chrétienne. Et puis, ça va être repris à nouveau frais. Par exemple, Freud va développer, sans la question de Dieu, c'est fonctionnement de l'intériorité humaine, pas du tout dans la perspective d'une vie spirituelle et d'une relation avec Dieu.
Qu'est-ce qu'on en est aujourd'hui en fait de cette conception de l'âme ? Parce que c'est vrai que on note bien aussi que la science progresse. Vous parliez des neurosciences, ça fascine des centaines de milliers de personnes et c'est vrai que c'est intriguant. Comment est-ce qu'aujourd'hui le chrétien résout cette relation qu'il a avec Dieu ?
Quand on reprend la tradition chrétienne comme on l'a fait dans ces émissions, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que il y a une vie, il y a une intériorité devant Dieu, mais c'est la question de la foi qui est reposée. C'est-à-dire que si on ne croit pas en Dieu, ça ne sert à rien de penser à l'âme humaine. On peut juste réduire son fonctionnement intérieur à des phénomènes psychologiques et physiques, mais qui sont tout à fait assumés dans la tradition chrétienne. Simplement, on les place devant Dieu. Et au-delà de cette vie humaine et au-delà de la mort, eh bien, il y a cette question d'une vie, d'une destinée de l'être humain. Du coup, on pose ce mot « âme » pour dire c'est la personne humaine peut vivre sans son corps, mais dans la dépendance à Dieu. À partir du moment où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas besoin de parler de l'âme humaine.
Donc, c'est aussi la question de est-ce qu'on croit uniquement ce que l'on voit, en fait ? Est-ce qu'on peut penser qu'il existe quelque chose qui n'est pas prouvable par la science ? Est-ce qu'on peut penser qu'il existe quelque chose qui n'est pas matériellement affiché devant nous.
Le divin est d'un autre ordre que l'ordre matériel. Et donc, quand on découvre dans son intériorité, alors ce que dit la tradition chrétienne, c'est que dans l'intériorité humaine, l'homme fait l'expérience du divin. Mais alors, donc, ça nous permet de revenir aussi à François de Sales, qui en parle très bien, c'est qu'il a l'image du temple de Jérusalem. Alors, donc, il décrit ça dans son traité de l'amour de Dieu, c'est-à-dire que vous avez un temple qui est avec différents parvis, où on va du plus extérieur vers le Saint des Saints. Alors il y a quatre étapes, on est d'abord dans le parvis des païens et ça représente aussi nos facultés physiques, corporelles, et puis on arrive vers l'endroit où on pense à Dieu, donc là avec les prêtres, etc., on s'approche, et puis au final il y a le Saint des Saints, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où réside la présence de Dieu et où la lumière n'entre pas. Et donc il y a que le grand prêtre qui par la porte, une fois par an, vient et invoque le nom de Dieu. Et cette image-là du Saint des Saints, ça reprend une espèce de trône de Dieu dans l'âme humaine, c'est-à-dire que en l'homme, il y a une présence de Dieu, il y a un Saint des Saints où Dieu réside, mais l'homme ne peut pas le ressentir avec ses sens physiques. La lumière naturelle n'y entre pas, et donc, ou très très peu, des fois par éclat, parce que le grand prêtre, il y a cette description sublime, où le grand prêtre, il ouvre la porte, mais lui-même, en avançant et avec l'encens, il obscurcit le peu de lumière qui entre par cette porte. Et donc, on perçoit très très peu, mais à partir de là, va se diffuser dans l'âme, donc dans les autres, ses facultés de mémoire, d'intelligence, de volonté, va se diffuser les dons de Dieu. On a parlé des grâces, c'est-à-dire la foi, l'intelligence, la volonté, les différentes vertus. C'est-à-dire que quand l'homme vit cette prière et cette relation avec Dieu dans la foi, même s'il peut pas ressentir directement la présence de Dieu, il peut en ressentir les effets dans son âme, se trouver purifié, élevé et dans l'ordre de la charité.
Alors, ça me semble intéressant qu'on écoute ce texte de saint François de Sales. Il est lu par le comédien Frédéric Folcher.
Cette extrémité et cime de notre âme, cette pointe suprême de notre esprit, est naïvement bien représentée par le sanctuaire, ou maison sacrée. Car premièrement, au sanctuaire, il n'y avait point de fenêtre pour éclairer. En ce degré de l'esprit, il n'y a point de discours qui illumine. Deuxièmement, au sanctuaire, toute la lumière y entrait par la porte. En ce degré de l'esprit, rien n'entre que par la foi, laquelle produit, comme par manière de rayon, la vue et le sentiment de la beauté et bonté du bon plaisir de Dieu. Troisièmement, nul n'entrait dans le sanctuaire que le grand prêtre. En cette pointe de l'âme, le discours n'a point d'accès, mais seulement le grand, universel et souverain sentiment que la volonté divine doit être souverainement aimée, approuvée et embrassée, non seulement en particulier pour quelque chose, mais en général pour toute chose, mais en particulier pour chaque chose. Quatrièmement, le grand prêtre, entrant dedans le sanctuaire, obscurcissait encore la lumière qui entrait par la porte.
Halte spirituelle, Madeleine Vatel.
Père Jean-Baptiste Masson, toute cette semaine, on a cherché à voir ce qui nous reliait chacun à Dieu. Il y a cette expression au moment du dernier souffle, justement, on parlait de l'esprit, ce dernier souffle, ce moment où l'on rend l'âme. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de rendre l'âme? À qui est-ce qu'on la rend?
Effectivement, rendre l'âme, c'est la redonner à Dieu. Et donc, il y a cette idée qu'on a notre vie biologique et on dépend dans notre vie terrestre de notre corps, aussi pour aimer et aussi pour croire. Donc pour tout ce que nous vivons de plus beau, même dans la foi, on a cette dépendance et on le vit d'une part par nous-mêmes, on fait ces efforts, mais on essaye d'aller vers Dieu et d'arriver à vivre cette relation avec Dieu. Et le moment de la mort, c'est le moment où on remet notre âme à Dieu, sur le modèle du Christ qui a remis son âme à son Père sur la croix. Eh bien, il y a un moment où on accepte de ne plus vivre par nous-mêmes, mais de vivre par la grâce de Dieu. Alors, c'est une dépendance. Alors, ça peut être vécu dans notre condition de pécheur comme une angoisse, parce qu'il va falloir lâcher le plat et avoir confiance que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui va le tenir. Et donc, il y a cette remise de soi à Dieu. Alors, tous les auteurs spirituels en parlent sous le mode de l'abandon. On parle aussi de la liquéfaction en Dieu chez Louis de Blois. C'est-à-dire, c'est le moment où notre âme s'écoule en Dieu et vit dans la forme de Dieu et dans cette union totale à Dieu. Mais c'est cette destinée heureuse de l'homme qui est préparée par une vie où on apprend à renoncer à soi pour vivre dans la confiance en Dieu.
Merci beaucoup, Père Jean-Baptiste Masson. Je rappelle que vous êtes prêtre du diocèse de Lille, curé de Villeneuve-d'Ascq, et vous avez animé récemment des journées d'études à la faculté théologique de Lille. Merci beaucoup.
Merci à vous.